Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 3 juin 1987.
S'exprime de la manière la plus propre. La recherche de la vérité. pas du tout ce même caractère. La recherche de la bonté non plus. C'est dans l'ordre du beau qu'on voit le mieux ce point de vue du lien entre l'intelligibilité et le sensible.
À la personne. Donc là encore,
un problème religieux. Hélas, il n'y a pas d'autre réponse que par le point de vue religieux. Mais il faut se poser le problème. Voyez, dans l'aspect premier, c'est-à-dire en regardant la personne au plan philosophique, à cause du corps, il y a la corruptibilité. La personne assume le point de vue de la mort, assume le problème de la corruptibilité. Pour la personne humaine, spirituel, nous l'avons déjà vu, la mort demanderait d'être absorbée, dépassée. Il n'est pas bon pour la personne humaine de mourir au sens strict, puisque la personne humaine implique une unité substantielle du corps et de l'âme. Et donc c'est une brisure très fondamentale la personne humaine. Il y a une destruction de la personne humaine par la mort. Et c'est pour ça que la mort est violente pour la personne humaine. Et nous portons cette mort à l'état virtuel par notre corps. Alors c'est là où on voit ce qu'il y a de légitime dans cet aspect de l'existentialisme actuel. Chez Sartre, qui a défini l'homme par la mort. Ce n'est pas juste. L'homme ne se définit pas par la mort, puisque la mort est violente, et l'homme ne se définit pas par la violence. Mais c'est juste de dire que l'homme, dans sa personne, doit regarder ce problème de la mort comme quelque chose d'essentiel par son corps. Je n'ai pas le droit, si vous voulez, de me considérer comme un être incorruptible. Ce serait faux. Et donc, dans toute ma personne humaine et dans toute l'éthique humaine, il y a tout le problème de la mort. Ne pas vouloir regarder en face la mort, c'est un manque de réalisme. Puisque je porte en moi cette mort, vous voyez, ça existe. Je connais des camps de chefs de famille, de pères de famille, qui n'ont jamais voulu faire leur testament. Parce qu'ils ne voulaient pas regarder la mort. Non, ils ont mis toute la famille dans le pétrin. Après moi le déluge, vous comprenez, c'est un peu ça. On ne va pas regarder ce qu'est cette brisure. Quand on est religieux, c'est facile, parce que dès qu'on entre en vie religieuse et qu'on prend l'habit, on prend un habit mortuaire, alors c'est la mort qui pénètre. Enfin, c'est fait, le testament est terminé. Mais pour la famille, vous voyez, où le corps prend une place très importante. La place du corps n'est pas la même du tout dans la vie religieuse et dans la famille. Mais ça, c'est l'éthique religieuse. Et c'est pas... C'est là, on voit la diversité. C'est très, très curieux de voir la réaction des parents quand ils viennent dans un monastère et qu'ils regardent la cuisine qu'on donne aux religieux. Ils sont toujours horrifiés. Toujours. Parce que l'aliment, c'est le corps, vous comprenez? Et alors, ils ont une réaction par rapport à leur corps qu'ils projettent sur la vie religieuse. Nous n'avons pas du tout le même regard, mais c'est très curieux, ça. Et ça, c'est... conception, avec la naissance, avec la croissance. Vous voyez, une mère, elle regarde toujours son fils qui grandit, comme le tout petit enfant. Même au pauvre petit. C'est misérable ce qu'on te donne comme nourriture. Comment veux-tu? Mais tu vas tomber malade, c'est impossible autrement. Et puis, craque, ça arrive 6 mois après. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit. Et c'est très curieux, mais c'est très intéressant de voir ça. Parce que ça fait comprendre que, de fait, le problème du corps dans la personne humaine, il y a un quart différent pour la famille et pour le point de vue religieux. Pas du tout la même chose. Et si on maintient le même regard dans la vie religieuse que dans la famille, on est toujours un peu à côté. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est peut-être, voyez, la dernière intégration dans l'homme religieux que cette vision particulière sur le corps. Tout l'ascétisme qui regarde le corps, qui doit être intégré. Je n'ai pas le droit d'avoir la même politique sur mon corps si je suis dans la vie religieuse que si je suis dans la famille. Ça, philosophiquement, indépendamment du monde, philosophiquement, je dois le regarder. Donc, le corps est intégré et va impliquer le point de vue de la famille. Parce que le corps implique la corruptibilité. Et parce que le corps implique la corruptibilité, j'ai un devoir de sauver cette espèce très particulière. Espèce humaine. Et le devoir premier, étant donné que la personne humaine intègre le corps, il y a un devoir essentiel de la personne humaine de propager l'espèce. D'où la nécessité de la famille. Alors vous voyez ce problème très particulier de la personne humaine et de la famille. Sous ce biais de la corruptibilité du corps. Et ça, c'est très important au point de vue philosophique, de bien voir comment la personne humaine implique la famille. Elle implique la famille. Je ne peux pas considérer que la famille est une chose accidentelle pour la personne humaine. C'est pas accidentel. C'est essentiel. Et il y a une responsabilité de l'homme comme personne par rapport à l'espèce humaine. Il y a un appétit naturel de l'homme vers la procréation. Et cet appétit naturel de l'homme vers la procréation, c'est parce que la personne humaine a une responsabilité vis-à-vis de l'espèce. Alors, à certains moments, que ça puisse se faire plus sentir qu'à d'autres, c'est bien évident, je crois qu'à 40, 45 ans, l'âge politique, c'est l'âge familial. On quitte beaucoup plus facilement sa famille à 20 ans qu'à 40 ans. Et à 40 ans, c'est très difficile de quitter sa famille. C'est très difficile d'accepter d'être sans famille. C'est-à-dire d'être un être isolé et que la personne humaine se construit seule. Et ceci à cause de la corruptibilité du corps. C'est pas à cause de l'âme. C'est pas à cause de la recherche de la vérité. J'allais presque dire, c'est même pas à cause de l'amitié. Parce que d'une certaine manière, les amitiés peuvent être d'une force et d'une intensité beaucoup plus grande personne de l'homme et de la femme. Jusque-là, ça ne s'opposait pas. Mais là, ça se pose. Parce que dans la famille, l'homme et la femme sont complémentaires. Sont complémentaires pour la procréation. Sont complémentaires pour l'éducation. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que la personne humaine peut être une personne humaine seule? Ou elle ne peut être une personne humaine qu'avec son conjoint? Toutes des questions très actuelles, qui au point de vue psychologique ont été très développées. Et si la personne humaine n'est personne humaine au niveau familial qu'avec le point de vue du conjoint, est-ce que la personne humaine, dépassant la famille pour une vie contemplative, est-ce que cette personne humaine aura encore toute la vigueur de la personne humaine? Je pose la question, venez, parce qu'il faut la poser. Puisque la famille est essentielle à la personne humaine. Je ne dis pas plus, parce qu'il faudrait reprendre ici alors tout le point de vue des liens entre l'homme et la femme dans la famille, dans la procréation et dans l'éducation. Alors au plan politique, l'homme est naturellement un homme politique. Il est naturellement un homme politique. Un homme naturellement aime la dimension politique. Je ne dis pas faire partie des partis politiques. Ça, c'est très très différent, puisque ça, c'est tout à fait le petit bout de la lanterne. Et même quelquefois la destruction du point de vue politique. Pas de suicider la dimension politique qui est en nous en faisant de la politique. Mais la dimension politique est essentielle à la personne humaine. La personne humaine n'a pas le droit d'abstraire ce point de vue-là. C'est le prolongement de la famille. La famille m'introduit directement en politique. Parce que la famille demande de se prolonger dans un bien-être politique. Puisque seul le point de vue politique permet le béné vivere. Et que le point de vue de la famille permet uniquement la procréation, la survie de l'espèce. Alors voyez, par le point de vue du corps, et ça c'est très important à souligner, Platon a été obligé de modifier sa philosophie du corps à cause de l'amour qu'il avait de la politique. Mais c'est par son amour politique de la justice que Platon a été obligé d'avoir un nouveau regard sur le corps. Et ça, c'est très intéressant quand on regarde Platon. C'est pas par le point de vue du corps qu'il a exigé de regarder la politique. Non, Aristote, oui. C'est là où on voit les deux regards politiques différents d'Aristote et de Platon. Parce que c'est par le point de vue du corps, dans tout le réalisme du corps, que le point de vue de la politique est essentiel à la personne humaine. Autrement dit, il y a une dimension essentielle à la personne humaine qui est le point de vue politique. Alors, une fois qu'on a vu tout ce petit programme, je vais maintenant me poser la question, puisque j'ai vu tout ce qui était essentiellement lié à la personne humaine. Je peux en faire le petit tableau si vous voulez, parce que c'est très très important de comprendre que la personne noue toute la philosophie. Toutes les parties de la philosophie sont nouées à partir de la personne. Alors je pourrais, voyez, faire la démarche inverse. Nous avons fait, nous, la démarche claire. politique, philosophie de l'art, de l'activité artistique, l'activité du fatuité, puis l'éthique, amour d'amitié, ainsi de suite, politique. Et à partir de là, les trois autres expériences, en réalité, les six expériences, il y en a six, il y en a même une septième cachée, philosophie de la matière, philosophie du vivant, philosophie première, et la philosophie première aboutit à la personne. Esprit lié à une nature simplement ça. essentiel. Donc, ce qui est intégré dans la ratio de la personne. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons essayer de comprendre les modes propres de la personne humaine. Vous voyez bien, quels sont les types originaux de la personne humaine? Où y a-t-il un type original de la personne humaine? Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Je donne tout de suite l'exemple. Je prends tout de suite le type dernier, la famille politique. Y a-t-il, au point de vue philosophique, une personne politique? Est-ce que l'aspect politique vient modifier d'une façon originale la personne humaine? Au point de vue psychologique, c'est bien évident. Il y a le politicard. Vous verrez tout de suite, oh, mais c'est un homme politique. Ça se voit, ça se sent. Oh, ça se... Tous les problèmes, il les aborde d'un point de vue politique. C'est très bien psychologiquement, ça c'est sûr. Mais philosophiquement, est-ce que le point de vue politique permet de dire qu'il y a un mode propre de la personne humaine? Je vais regarder, je pose toute une série de questions. Oui, ça c'est très intéressant à voir. Donc je mets l'homme politique. Est-ce que le père est un type particulier de la personne humaine? Ou est-ce que c'était qu'une fonction? Est-ce que ça touche à la personne humaine d'une manière telle que ça structure la personne humaine? Est-ce que ça donne une unité? Est-ce que c'est ça la personne, le corps et l'âme? Ensuite, le point de vue artistique. Non, avant, le point de vue sportif. Le point de vue du corps et de la santé. La santé du sportif. Mais la santé au sens très très grand. Y a-t-il un type, une personne humaine chez le sportif? Psychologiquement, c'est bien évident. Surtout aujourd'hui. esprit de